Théologie fondamentale sur les sacrements. 4 novembre 1983, Rimont.
Nous avons commencé la dernière fois par cette remarque générale, je crois la plus importante de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment, de fait, toute la révélation implique à la fois la parole de Dieu et les gestes de Dieu. Alors, c'est un fait que on a retenu la parole, c'est bien évident, mais que les gestes, on les a un peu laissés tomber. Alors, ce qui est intéressant, d'autre part, c'est que la philosophie classique, elle aussi a laissé tomber les gestes. Et peut-être à cause de ça que les théologiens ont laissé tomber les gestes. Nous ne voyons pas dans saint Thomas une philosophie du geste. Dans Aristote, on voit une certaine philosophie du geste, mais on a complètement laissé tomber. Aristote a des considérations très étonnantes sur la manière dont l'homme se tient, à la différence des animaux. Et le geste, puisque Aristote considère que la définition de l'homme, la meilleure, c'est femme animale raisonnable. Ça, c'est logique, c'est l'intelligence liée à l'humain. Donc, c'est pour bien faire comprendre que, de fait, l'intelligence s'exprime par la parole, mais l'intelligence s'exprime aussi par la main. Elle s'exprime aussi par le geste. Alors, c'est un fait, il faut constater cela, que la scolastique, et surtout la scolastique décadente, à partir du XIVe siècle, a laissé tomber complètement toute cette question du geste. Je vous demande, on essaiera de voir comment il y a un certain regard sur le geste. Mais ça reste un état assez embryonnaire, c'est pas très développé. Mais à partir du XIVe siècle, on peut dire que ça disparaît complètement. Alors, la philosophie contemporaine reprend, grâce à la théologie, le point de vue du corps, la corporalité et le point de vue du geste. Dans les repentis, nous retrouvons tout un intérêt particulier sur le geste. C'était dans une certaine perspective, mais c'est quand même intéressant de voir que, de nouveau, les philosophes s'intéressent à la question de la corporalité et la question du geste. Et le Saint-Père nous dit qu'il faudrait faire une philosophie du corps. Qui s'intéresse à l'homme d'une manière très particulière, je dis qu'il faudrait une philosophie du corps. Voilà. Je vois, vous voyez, là quelque chose qui me semble important à souligner. C'est que l'Écriture, dans sa source, le mystère de la révélation, implique à la fois la parole et le geste. Depuis le début jusqu'à la fin. On pourrait, il le faudrait faire. Ça ne s'est pas fait, je ne crois pas. La théologie des gestes à travers toute l'Écriture. Voir ce que ça signifie. Il y a le colère de Dieu s'accompagne souvent de certains gestes. Moi, ça fait du bruit. Alors, le colère de Dieu, c'est l'éclair et ta mère. L'éclair et ta mère, ce n'est pas la voix, ce n'est pas la parole, c'est une chose. On voit dans l'histoire de Jésus des gestes. On voit dans l'histoire des prophètes des gestes. Les prophètes ont des gestes qui sont des gestes prophétiques, qui expriment quelque chose. Donc il y a tout un grand geste de Dieu à travers toute l'Écriture. De temps en temps, c'est directement Dieu, et de temps en temps, ce sont les instruments de Dieu. Enfin, Dieu, c'est aussi les instruments de Dieu. Le premier geste, je reprends tout simplement, parce qu'on ne va pas faire. On pouvait, ce serait très intéressant, ce serait la manière de nous introduire dans ce mystère des sacrements. Et de comprendre ce qui est tout à fait particulier dans le mystère de l'Église. Alors, je vais essayer simplement de souligner quelques points qui me semblent importants à souligner, très compléter. Et que de fait, il y a deux manières de communiquer à l'homme. L'homme communique à l'homme le demeure. Donc c'est tout. Par la parole, tout le monde est d'accord là-dessus, et la parole caractérise justement la communication de l'homme à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait bien découvrir que dans les singes les plus évolués, il puisse y avoir des embryons de paroles. On essaie de découvrir s'il n'y a pas vraiment une parole, c'était très connu. Les anciens avaient le souci de montrer avant tout ce qui caractérisait l'homme par rapport à l'animal. Aujourd'hui, on se dégrade, on essaie de comprendre qu'il y a plutôt une ressemblance, c'est vrai, le plus loin possible, pour pouvoir dire la parole, ce n'est pas ce qui caractérise l'homme. Mais pour moi, la parole reste avant ce qui caractérise l'homme. Une véritable parole, hein, un langage. Possibilité de communiquer une pensée. Parce que le cri n'est pas une parole. Il y a des cris dans les animaux, les animaux poussent des cris beaucoup plus puissants que ceux des hommes, n'est-ce pas ? Ils sont beaucoup plus forts que ceux des hommes. Mais le cri, c'est entre le geste et puis la parole. Comme la voix. Entre le geste et la parole, c'est quelque chose de particulier. Qui est à un niveau affectif, de communication. Moi, c'est de l'ordre de la communication. On crie pour que quelqu'un nous entende. De temps en temps, on crie dans le désert, même quand on est seul, pour se donner du courage. Mais ça, c'est autre chose. C'est parce que justement, on a peur du silence. Et que le silence fait toujours peur quand on a de l'angoisse dans le cœur. Alors, on crie pour se donner du courage. On se dit d'où. Vous voyez ? Moi, c'est le même qui s'est doublé. On veut se donner du courage. On sent qu'il y a peur pourtant, on veut se donner du courage. Mais normalement, la parole caractérise donc la communication de l'homme avec l'homme, et cette communication n'est pas seulement la parole, elle est aussi le geste. On ne communique pas les mêmes choses par la parole et les mêmes choses par le geste. On a dit, essayons, si vous voulez, d'analyser, puis nous reviendrons à l'écriture après. On va aller de l'écriture à la philosophie à l'écriture. Hein. Il faut simplement savoir qu'on change de vitesse. Autrement, on va de l'un à l'autre parce que les deux doivent s'éclairer. Alors, essayons de réfléchir un peu, faisons une petite philosophie rapide, mais une petite philosophie de la parole et du geste. Je crois que c'est important. Et puis, nous essayons ensuite de voir comment cette philosophie de la parole et du geste peut être au service de la double manière dont Dieu réalise une communication avec les hommes, c'est-à-dire une alliance. L'alliance implique une parole, l'alliance implique un geste. Et c'est ça tout de suite, hein, l'alliance avec Abraham implique des gestes. Donc c'est déjà vrai dans l'ancienne alliance. L'alliance avec les prophètes implique des gestes. Et l'alliance avec le Christ implique des gestes. Alors, est-ce que on aurait quelque chose d'analogue au début de l'épître, de l'épître aux Hébreux? Vous savez, quand au début de l'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux souligne, les prophètes ont parlé de multiples manières, mais dans ces derniers temps, la parole nous a été donnée d'une manière unique. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose par rapport aux gestes? On doit se poser la question. Que de fait, il y a un geste caractéristique qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, qui était de l'ordre de la perfection, et que nous trouvons alors le geste par excellence. Ça nous aidera, encore une fois, à comprendre comment, dans l'Église, il y a parole, la liturgie de la parole. On ne dit pas la liturgie du geste, on dit la liturgie de la parole. Il y a aussi la liturgie du geste. Alors, est-ce que la liturgie des sacrements, c'est la liturgie des gestes. Posons la question. Pour pouvoir répondre, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le geste, qu'est-ce que c'est que le sacrement. Et essayer de voir s'il n'y a pas, au fond là, quelque chose qui traîne. Alors ça nous aiderait à comprendre, il y a la grande, au point de vue économique divine, c'est toujours la même chose, Vatican II nous demande de reprendre toute la théologie dans la lumière de l'économie divine. Alors reprendre toute la théologie dans la lumière de l'économie divine, c'est comprendre que l'économie divine commence par une parole et des gestes. Parce que c'est une alliance. Et que l'alliance avec l'homme a pu tenir. Vous ne pouvez pas faire ne pouvez pas faire une alliance avec un homme sans geste. Premièrement, il faut avoir une cellule. Et puis, on donne la main après. On s'embarrasse. Du côté plus ou moins froid, plus ou moins juridique, plus ou moins de la chaleur. Non, affective, mais au fond, toujours. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de relation humaine sans le point de vue de la parole, sans le point de vue de la vie. Alors, si Dieu assume pleinement et totalement la relation humaine, il faut nécessairement retrouver ça. Il faut alors comprendre la différence qui existe entre la communication par la parole et la communication par le geste. Ce que nous pouvons communiquer par la parole et ce que nous pouvons communiquer par le geste. Quelle est la finalité propre de la communication par la parole et la finalité propre de la communication par le geste. Je reprends ici une analyse fondamentale de la parole, très ancienne, celle d'Aristote au début du périple de l'élégance. C'est un lieu classique, c'est un lieu du reste très beau, qui reprend ce que Platon avait déjà dit, mais d'une manière beaucoup plus embryonnaire et d'une manière beaucoup moins analytique. Sans analyse, alors que de fait, chez Platon, je veux dire chez Aristote, il y a toute une analyse. Platon parle du mythe du teut. Et dans le mythe du teut, Platon montre la différence entre la parole et l'écriture. Première distinction. Je ne crois pas que dans Platon, il y ait une philosophie du geste. C'est pas clair. Étant donné le mépris souverain de Platon à l'égard du corps. Alors, étant donné le mépris souverain de Platon à l'égard du corps, le corps est beaucoup trop matériel, beaucoup trop sensible pour permettre une véritable communication. Et on sait très bien la différence que Platon fait entre la communication par la parole et l'écriture, c'est que l'écriture ne répond pas. La parole répond. Je me souviens de toute ma vie, quand j'avais exposé ce passage de Platon à Fribourg, dans l'auditoire, il y avait un jeune protestant qui avait fait toutes ses études d'études ecclésiastiques à Lausanne, qui était venu à Fribourg, très calviniste. Je n'ai pas fait une seule allusion, j'étais en philosophie. Simplement, je chose très curieuse, différente entre la parole vivante et puis l'écriture. Et Platon dit textuellement, c'est Platon qui dit ça, la parole ne répond pas. Je veux dire, l'écriture ne répond pas. La parole vivante répond. Qu'est-ce que c'est qu'une parole vivante? L'écriture, c'est une parole figée. Évidemment, ça, ça ne répond pas. Si vous êtes très intelligent et que vous connaissez suffisamment pour être instruit par l'écriture, vous êtes instruit par l'écriture. Mais si vous n'êtes pas assez intelligent, l'écriture ne vous rendra pas intelligent. C'est très bien. L'écriture garde quelque chose de fixé. Tandis que la parole est vivante. Elle est vivante quand elle est liée à sa source. Il y a des paroles vivantes et des paroles qui ne sont pas vivantes. C'est-à-dire qu'il y a des cours vivants et des cours mortels. Enfin, c'est ça, ça existe, c'est évident. Le cours mortel, c'est lorsque justement la parole n'est plus liée à sa source. Alors vous répétez. Le vieux professeur qui a ses fiches, ses notes, et puis qui commence à donner son cours, puis au milieu du cours, il s'aperçoit que tout ça, c'était l'Ancien Testament. Et alors il dit, oui, ça ne peut pas arriver. C'est arrivé à des cours, je n'ai pas quel professeur, c'était vénérable et merveilleux. Mais il y avait de temps en temps des petits trous comme ça. Là, je commence, je viens au milieu, je me fais deux heures. Ah, pardon, tout ça c'est passé. C'est une grille. Maintenant, je vais vous donner la dernière précision. On voit très bien. La parole qui est une répétition, donc il dit simplement la mémoire, le gars, n'est pas vivant. Une parole vivante, elle est liée à sa source. Alors à ce moment-là, la parole vivante, elle est liée à sa source, elle a toute la souplesse de la source, que la parole n'a pas nécessairement de souplesse, c'est pas la chaleur de la voix, mais au fond, différent par rapport à l'écriture. Mais elle n'a pas cette souplesse. Mais c'est la différence entre un coup et puis le microphone qui répète, on reprend. Alors c'est tout à fait différent. Tandis que la parole est bonne, elle est bien sa source, normalement. On, normalement, communique aux autres ce qu'on pense actuellement. C'est en ce sens-là que la parole est vivante, elle est liée à sa source. Alors elle communique ce que nous pensons. Et c'est pour ça que Platon dit, la parole permet un dialogue. L'écriture ne permet pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue à partir de l'écriture. Il y a un monologue. Puisque le livre est vivant. Vous lisez, laisse-moi lire, laisse-moi tranquille de vous lire. Tandis que dans un dialogue, il y a l'autre qui répond. Et si on ne comprend pas, vous avez dit ça, est-ce que c'était comme ça que vous voulez dire, l'autre répond. Il n'y a pas d'herméneutique de la parole vivante. Ça, ce serait très intéressant à bien préciser dans le contexte d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Il n'y a pas d'herméneutique de la parole vivante. Tandis qu'il y a une herméneutique de l'écriture. Puisque c'est justement quelque chose de figé. L'herméneutique a commencé à partir de la philosophie de Heidegger sur le sphinx. Donc, toute la philosophie, c'est toujours un sphinx. On voit très bien ce que ça veut dire. Le sphinx, quand on l'étudie en dehors de son contexte, il faut le remettre dans son contexte pour le comprendre. Parce que quand il est dans un musée, vous pouvez le regarder, admirer, mais vous ne comprenez que le sphinx. Vous ne comprenez pas la signification profonde du sphinx. Vous regardez dans un musée. Il faut le trompe-l'œil du musée. C'est ça, dans un musée, vous avez besoin de l'herméneutique. Vous avez besoin de quelqu'un de très instruit et qui vous dit, voyez, cette statue, elle était là, elle était dans ce contexte-là, elle est belle là, et ainsi de suite. Autrement, oui, vous regardez, si vous avez beaucoup de goût, vous dites, c'est beau, il y a des tas de choses que vous ne comprenez pas. Tandis que quand on vous explique, là, vous commencez à comprendre, il y a toute une herméneutique. L'herméneutique vient à partir du musée. C'est à partir du musée, c'est très curieux de voir ça. Et c'est vrai, Malraux fait des remarques très intéressantes sur le musée. Parce que le musée nous fait entrer dans une ère nouvelle dans une culture. Et ça, il a parfaitement raison. C'est que le musée fait entrer dans une ère nouvelle. Parce que ça garde des statues en dehors de leur contexte. Ça met derrière une vitrine. En dehors du contexte. Vous regardez des poteries admirables que vous avez reconstruites un peu et vous les mettez en mettant des dates derrière. Là, il y a une herméneutique. Tandis que s'il était dans le contexte, il n'en avait pas besoin. Mais la différence entre l'écriture qui a besoin d'une herméneutique et la parole vivante qui n'en a pas besoin. Parce que dans la parole vivante, le contexte, c'est celui qui parle. D'un coup, c'est celui qui parle. Et ça fait partie du contexte, du milieu interne. Et si on ne comprend pas, on lève la main, pardon, j'ai pas compris. Ou bien on dit, écrivez tout de suite, bonne difficulté, j'ai le droit de discuter. Il y a une réponse, il y a un dialogue. Et le dialogue n'a plus besoin d'hermétique. Et quand il n'y a pas de dialogue, il y a besoin d'une hermétique. Donc quand on est en face, c'est ça qui est très important. Les anciens avaient très bien senti ça. Platon a très bien senti ça. Il a très bien saisi la différence qui existe entre l'écriture et la parole vivante. C'est pour ça que l'imprimerie, qui a intensifié le point de vue de l'écriture, a amené quelque chose de très particulier. Parce que ce n'est plus la tradition qui transmet une parole vivante. Thèse, on sait ce que c'est l'accumulation des livres. Et on sait qu'à ce moment-là, quand on se met dans l'information des livres, on est dans une situation critique au point de vue de l'intelligence. On a des intuitions prodigieuses. Quand on commence une thèse, on en a plus dès qu'on commence la formation. C'est extraordinaire. Parce qu'on voit que c'est écrit des quantités de choses dessus. Alors si on ne se renouvelle pas tout le temps dans son intuition, on risque de la perdre. Parce qu'il y a une information trop grande. Et ça, c'est des livres. Ça étouffe. C'est très connu. comme le livre, comme l'imprimé, qui est au service de la communication, risque de nous mettre dans l'isolement. À un moment donné, son conditionnement, une condition de situation limite. Normalement, ce qui est un moyen devient quelque chose qui arrête, devient une borne. Trop d'informations. Pour faire cette expérience, hein, c'est intéressant à faire, et en y réfléchissant, en voyant comment, au fond, au point de départ, on a des intuitions, quand on cherche une trop grande information, on est accablé par ça. On n'en peut plus. On dit, mais ça n'a plus aucun intérêt ce que je vais dire. On a tellement parlé sur le sujet. Alors que toujours, quand il y a une petite intuition, ça a toujours un intérêt. L'intuition qu'on a eue, personne d'autre ne l'a eue avant nous. Elle est toujours propre. Je ne dis pas qu'elle est géniale, hein, mais elle est quand même quelque chose de nous. Et puisqu'elle est quelque chose de nous, elle est unique. C'est sûr. Ça, c'est la vie de l'intelligence. Parce que personne n'a été dans notre circonstance exactement. Et donc l'intuition qu'on a quelque chose à dire. Alors, on sait du passé, on sait de ce que les autres ont dit. Très très bien, il faut s'en servir pour mieux comprendre l'originalité de notre pensée et mieux comprendre notre intuition. Mais quand l'information est tellement grande, ça est tout. Le livre peut tout faire. Je sais que la parole peut aussi tout faire. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a un seul des paroles, qui continue à vivre, effectivement, et du matin jusqu'au soir, et du soir au matin, la vie est toujours. Donc moi, je pourrais lui dire, parce que le livre ne peut pas lui dire. Et le livre ne répond pas à l'information continue. Et les bibliothèques sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus lourdes à la portée. Alors vous voyez, ça fait partie de cela, l'information au niveau du livre. Le dialogue au niveau de la parole, et la parole vivante. Platon n'ira pas plus loin. Aristote, dans le périr l'élégance, le livre de l'interprétation. Périr, c'est le livre de l'interprétation. Aristote, dans le livre de l'interprétation, va essayer de préciser les liens qui existent entre l'écriture, la parole et la pensée. Et je crois ça important pour nous de bien nous rappeler cela, de bien nous rappeler ces trois moments. Le moment de la parole, le moment de l'écriture, et le moment de la pensée. L'écriture est en dépendance de la parole, normalement. Normalement, je parle, et puis l'écriture va figer. Mais l'écriture peut être aussi directement reliée à la pensée. Deux manières pourront être communiquées la pensée, la parole et l'écriture. L'écriture de l'être. Mais tu peux l'être directement sans nécessairement dire avant. Je vais la lire tout haut, et puis je vais l'écrire après. Non, pas nécessairement. On peut passer directement de la pensée à l'écriture. Mais aussi, on peut passer de la parole à l'écriture. Et la pensée, elle, est reliée directement à la réalité. À la réalité existante. Voilà ce que fait Aristote au début du Périr Ménélas. Il fait que ce lien entre la parole, la pensée et la réalité. La pensée, quand je pense quelque chose, je forme au-dedans de moi un logos. On va appeler ça le verbe intérieur, le verbe, le concept. Il y a un lien direct entre ma pensée et la réalité, normalement. Quand je découvre quelque chose, c'est à partir de ma réalité que je découvre. Je découvre profondément, je veux connaître ce qu'est cette réalité. Et je forme au-dedans de moi un concept. Ce concept est le symbole, le signe formel, quand je dis signe formel, je dis un signe particulièrement précis, de la réalité. Mais ce signe est relié directement à la réalité, c'est-à-dire un signe naturel. Un signe naturel. Quand je pense, peu importe la nationalité à laquelle j'appartiens, peu importe la langue à laquelle j'appartiens, la pensée, c'est un lien de mon intelligence, de mon nous, parce que je suis avec Aristote et les Grecs, de mon nous avec la réalité. Il y a un lien. Je reçois de la réalité. La réalité, Le nous est source, et la réalité est source. Il y a deux sources. C'est curieux. Pas du tout du même ordre. Hein? Parce que le nous, l'intelligence, mon intelligence, reçoit la réalité. Et elle va penser, donc elle va transformer cette réalité en se l'assimilant. Et il va former au-dedans de moi-même ce que j'appelle le concept, le verbe intérieur, ce logos, qui signifie la réalité que j'ai pensée. Quand je pense à quelqu'un, à une réalité, je deviens intentionnellement cette réalité. Donc il y a un lien. Il y a un lien premier. Et la première communication, c'est la communication de la réalité existante vers le point de vue de la pensée. La pensée, je veux l'exprimer aux autres. Et je l'exprime aux autres par la parole. Et qu'est-ce qu'il y a comme lien entre la parole et la pensée? C'est que la parole est symbole, je prends le terme d'Aristote, symbolome. La parole est symbole. Et je dis plus facilement que la parole est symbole que le concept. Je ne dis pas que le concept est symbole. Je dis que le concept est signe. On verra un petit peu la différence entre le signe et le symbole. Hein, parce que ça, c'est intéressant. De fait, on ne dira jamais que le concept intérieur est symbole de la réalité. On dira les signes. Et même, on dira un signe formel. C'est-à-dire un signe très précis. Mais on dira un signe naturel. Tandis qu'au contraire, la parole est symbole de la pensée, symbole qui n'est pas un symbole naturel, parce que la parole, c'est l'homme qui l'a inventé. C'est l'homme qui a inventé les langages. Comment l'a-t-il inventé? Ça, je ne sais pas. Moi, je l'ai reçu. Et vous aussi. J'ai reçu la parole. On l'a pas inventé. Quel est le premier homme qui a inventé la parole? Cherchez. Très grand ami. Pour essayer de comprendre l'origine de la parole. Parce que c'est très bien, l'origine, comme je crée un livre, pour créer l'origine de l'écriture. C'est quand même quelque chose de très très curieux. L'origine, la première parole, qui a tout de suite été créée par l'homme. C'est l'homme qui a réalisé la parole. Il a réalisé la parole. Donc il y a un art. C'est une œuvre, la parole. C'est une œuvre. Quelque chose qui réalise, c'est une œuvre symbolique qui exprime la pensée. Et ce symbole a une signification qui n'est plus naturelle, qui est une signification conventionnelle. Donc ce qui montre que la parole ayant une signification conventionnelle dépend d'une communauté. Il n'y aurait pas besoin de parole si je n'étais pas dans une communauté. La communauté appelle la parole. C'est... On n'appelle pas le silence, ça appelle la parole. Dès qu'on est en communauté, immédiatement, on a une démangeaison de parler. C'est normal, hein? c'est parce que la communauté appelle la parole. L'autre, qui est à côté de moi, je désire lui communiquer ce que je pense. Alors ce que je pense, je le possède au-devant de moi-même, et il ne voit pas. Comme je pense profondément. Je réfléchis et je communique aux autres ce que je pense. Je communique en me servant de la parole. Et cette parole, elle a une signification symbolique, elle est un symbole qui a une signification conventionnelle. Évidemment, quand je vois le chat et que je dis chat et que je prends une autre langue, ce sera un autre mot. Donc, c'est fondé sur une communauté. Et c'est l'usage qui me fait comprendre la signification des mots. Les mots, la parole. Les mots qui ont une signification. Vous voyez donc qu'il y a une grande différence, c'est ça qui est intéressant ici à voir. Il y a une grande différence entre la signification de la parole et la signification que je porte en moi dans ma pensée. Quand je porte en moi ma pensée, quand je pense, cette signification, elle est naturelle. C'est pour ça que là, pratiquement, on pense plus ou moins profondément, c'est vrai, on pense plus ou moins profondément, notre pensée s'établit à des degrés différents. Il y a des degrés différents d'intelligibilité, c'est sûr. Et c'est ce qui fait la différence des hommes entre eux. c'est qu'ils ne pensent pas tous dans la même profondeur. Il y en a qui pensent de façon très superficielle, parce qu'ils pensent à des gens normaux, pas plus loin, alors ça reste très superficiel, et bien des gens qui pensent plus. Et dans la mesure où ils pensent plus, alors leur pensée a une signification plus profonde. Et puis il y a une parole qui dépend de la communauté. Ils font qu'à ce moment-là, il y a une multiplication. Phénomène, le mythe, comprenez bien, je parle à philosophe, le mythe de la tour de Babel. Le mythe de la tour de Babel, pour exprimer cette chose très curieuse, que l'unité de la pensée s'est fragmentée en diverses formes. L'unité de la pensée, je crois que tous les hommes pensent à peu près de la même manière, à des niveaux différents. Je crois que tous les hommes pensent à peu près de la même manière. Quand un homme, qu'il soit coréen, ou français, ou allemand, ou espagnol, et quand il voit un chat, il pense à un chat. Est-ce que leur concept est différent ? Évidemment, c'est invisible, je peux le dire, ça n'est pas contre lui. Mais je crois qu'ils pensent tous le chat, ils pensent tous un animal. Ils diront c'est un animal. Dans leur langage, ils penseront l'animal. Ils penseront de la même façon. Si naturel, et la réalité est la même. C'est la réalité qui commande la pensée. On monte de la réalité à la pensée. Et c'est un signe naturel. Il y a une espèce d'harmonie très très curieuse qui s'établit entre l'homme par ses sens, sa pensée et la réalité. Tandis qu'au contraire, il y a une diversité de la parole. Et pourquoi y a-t-il une diversité de la parole ? C'est que la parole est une œuvre d'art. Donc qui n'exprime pas adéquatement la pensée. Si la parole n'exprime pas adéquatement la pensée, il y a donc au niveau même de la parole une diversité possible. Tandis qu'au contraire, du côté de la pensée, puisque c'est un signe formel naturel, il n'y a pas de signe de diversité. Je pense plus ou moins profondément, mais je pense cette réalité. Je pense ce chat, je pense ce chien, je pense cette marche. Tandis qu'au contraire, ici, il y a l'œuvre d'art, c'est l'homme qui, de fait, a forgé le langage. Il a forgé le langage comme un moyen de communication. Et parce qu'il a forgé ce langage comme un moyen de communication, il y a donc l'œuvre d'art qui apparaît. Et c'est pour ça que le symbole a une signification conventionnelle. Ça, c'est capital. Parce que ça montre très bien la limite de la parole. La parole est doublement limitée. Vous voyez. La pensée est déjà limitée. Parce que jamais la pensée sera adéquate à la réalité. Jamais. Et la parole ne sera jamais adéquate dans sa signification à la pensée. Parce que c'est un symbole. Signification conventionnelle. Le symbole, signification conventionnelle. Et la parole va pouvoir se réaliser dans l'écriture, mais à ce moment-là, je fixe un phénomène très particulier. L'écriture va fixer, stabiliser, préciser, et par le fait même, appauvrir. L'écriture a sa signification. Une signification aussi conventionnelle, bien évidemment. Et cette signification est plus pauvre que celle de la parole, est plus pauvre que celle de la pensée. Vous avez donc, hein, comme phénomène de signification, le premier lieu de la signification, la pensée, le second lieu de la signification, la parole, le troisième lieu de la signification, l'écriture. Ben, je crois que vous pouvez tous comprendre ça. Puis de réfléchir quelques instants sur le fait que vous vous mettez à parler. Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Quelqu'un qui commence à parler sans vouloir dire, sans vouloir rien dire, on lui dit tais-toi. Parce que tu vaut mieux communiquer ce que tu penses normalement. Ou bien alors c'est parce qu'on est en rêve, ou bien parce qu'on est pris par quelque chose d'autre. Hein? Affectivement, on est troublé, et là on commence à crier. C'est plus la parole, c'est le cri. Hein? Quelque chose, le cri. Le cri a une signification biologique, une signification affective. Il y en a un cri tout proche de la voix. Et la parole se sert de la voix, se sert du cri. Ça, c'est le côté affectif de la parole. n'est pas la signification. C'est assumé dans la signification. Quand j'exprime quelque chose, je peux l'exprimer par un cri, je peux l'exprimer de façon plus harmonieuse, je peux l'exprimer avec plus de tendresse, je peux l'exprimer avec plus de force. C'est tout l'élément affectif de la voix qui est assumé dans la parole. Mais ce n'est pas la voix qui donne la signification. La signification est plus profonde. La signification provient de ce lien de la parole avec la pensée. Et la pensée elle-même signifie quelque chose dans son lien avec la réalité. Elle signifie quelque chose. Ceci, vous voyez, c'est important à voir. Il y a un grand tournant dans la philosophie. Il faut le voir, on est bien obligé. Ça, c'est ce qu'a dit Aristote, c'est resté vrai de nombreuses années. Puis à un moment donné, ça a pris quelque chose de tout à fait différent. À partir de celui que vous connaissez bien, et qui est un grand tournant dans la pensée occidentale, notre cher Occam. Occam, 14e siècle. Je dis bien, il faut remonter à Occam. La philosophie moderne n'a rien inventé. D'où viennent les théologiens? Les théologiens sont responsables d'un tas de choses. C'est extraordinaire. Parce que c'est vrai, quand on regarde notre monde, notre culture occidentale, au moins notre culture occidentale. Notre culture occidentale, elle dépend des théologiens. Or, au XIVe siècle, Occam va faire quelque chose de tout à fait nouveau, par sa logique. Il va considérer que la parole est l'écriture. Il montre bien, il répète Aristote. Occam peut être aristotélicien, mais il n'est pas du tout. C'est amusant. Il veut l'être par mode d'autorité. Alors, il y a une continuité par mode d'autorité, mais il donne une nouvelle signification. Occam considère donc que la parole comme l'écriture signifie directement la réalité. Il n'y a plus de verbes. Il n'y a plus de concepts. Il n'y a plus que la parole et l'écriture. Et il dit à ce moment-là que la parole remplace l'écriture. Je veux dire que la parole remplace la réalité. La réalité telle qu'elle est. Où l'écriture remplace. Déjà, Aristote avait dit que la parole est comme l'argent, comme la monnaie. Vous voyez l'analogie, hein? Le troc dans le commerce, hein, c'est telle réalité qui remplace telle réalité. Pour ne pas emporter toutes les paires de chaussures et toute l'alimentation au marché, il y a la monnaie. On a inventé la monnaie. La monnaie permet l'échange. La monnaie est quelque chose qui est relatif à la réalité. Relatif à l'or ou à la réalité. La monnaie doit être relative à sa capacité d'échange, en réalité. Sa capacité d'échange. Alors, Aristote fait ce lien entre la monnaie et la parole. La parole permet que je ne montre pas le livre. Je parle du livre de mon livre. Si je n'avais pas le mot « lire », je serais obligé d'emporter dans ma poche avant le cours. Qu'est-ce que je vais dire? Il y aura le lit, il y aura la pomme, il y aura la vache. Successivement, les réalités. Grâce à la parole, je n'ai pas besoin de la réalité de la vache, je n'ai pas besoin de la réalité du lit, je n'ai pas besoin uniquement à parler correctement. Et puis, dès que je dis la vache, je dis la vache. Dès que je dis le lit, il n'était pas la signification. Donc, il y a une analogie très curieuse et très intéressante entre la monnaie et la parole. C'est une analogie. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, c'est Occam. Il a dit, la parole, puisqu'elle remplace la réalité, c'est la parole qui directement est liée à la réalité, sans la pensée. Et c'est la parole qui vient. Et c'est ça qu'on voit dans la philosophie analytique moderne. Et c'est déjà chez Occam. Il n'a rien inventé. La philosophie analytique n'a rien inventé. Elle provient exactement de la même chose. C'est qu'on ne voit plus la relation. Et c'est très important, ça. Vous savez, c'est une répercussion, hein, sur l'exégèse. C'est une répercussion sur toute la théologie. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. C'est intéressant de voir à quel moment il y a eu le tournant. Il faut toujours regarder le tournant. Hein. Bon moment. des aiguilles qui changent. Hein. Parce que quand vous les regardez dans les derniers succès d'année, vous ne comprenez pas, hein. C'est une nouveauté la philosophie humaine. Mais non, ce n'est pas une nouveauté, c'est très ancien. C'est très ancien. Mais avant, on ne disait pas trop, maintenant on prend clair. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que la parole, à la place d'être reliée à la pensée, n'est plus reliée à la pensée. On ne regarde plus que la parole ou l'écriture, pour elle-même. Et on regarde la signification de la parole et la signification de l'écriture directement reliée à la réalité. Donc il n'y a plus la souplesse de la pensée. La parole devient univoque par rapport à la réalité. Puisque la parole, l'écriture, c'est surtout l'écriture. On verra l'écriture. On dira l'écriture, ça signifie ce mot. C'est tout. Et elle aura sa signification propre en fonction de l'ensemble. Vous aurez un texte, il rend ce tout. Alors c'est le tout qui remplace la pensée. Parce que l'écriture, en fonction du tout, aura telle ou telle signification. Et c'est le tout qui va être le support dans lequel je vais analyser l'écriture. Et trouver sa signification. L'écriture n'est plus en référence avec la parole, n'est plus en référence avec la pensée. Elle est prise pour un tout, pour elle-même. Et dans ce tout, je vais essayer de saisir la signification propre des différents mots, en fonction du tout. Et c'est l'écriture qui va être mise directement en relation avec la réalité, sans passer par la pensée. Mais à la place d'avoir trois, c'est deux. À la place d'avoir trois, ma réalité, ma pensée, ma parole, il y a même quatre. Je vais mettre directement l'écriture en relation avec la réalité. Ça, c'est très ancien. C'est à partir du moment où on n'a plus vu le lien qui existait entre la parole et la pensée. Et ça, c'est resté. La philosophie occam a été condamnée par l'Église, il ne faut pas l'oublier, a été condamnée par l'Église, et parce qu'elle a été condamnée par l'Église, c'est pas ma pensée, qui a été ouverte à la chose, alors ça a proliféré. Il n'y a rien de fait pour donner une réclame prodigieuse. Non. Alors ça a proliféré. Ça a proliféré, ça s'est tendu. Et aujourd'hui, on voit très très bien qu'on est devant une analyse du langage qui est comme ça, qui n'est plus du tout cette analyse ancienne. Mais si vous réfléchissez bien, si vous prenez votre expérience, alors, ça finit par l'expérience de la parole, c'est une expérience que nous pouvons tous faire, normalement, quand nous parlons. Normalement, quand vous parlez, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous parlez à un ami, vous êtes en dehors de la philosophie analytique. La philosophie analytique, c'est pour les livres. Et quand vous parlez à un ami, vous voulez exprimer ce que vous pensez, ce que vous aimez, vous le dites spontanément. Et l'ami comprend. Quand vous l'écrivez, c'est la même chose. Il ne va pas faire l'analyse de votre écriture, uniquement en fonction de votre lettre. En fonction de ta lettre, j'ai compris ceci. Il n'y a pas compris ce que je voulais dire. Il n'y a pas compris ce que je voulais dire, ce que je voulais communiquer. Voilà. Vous voyez cette chose très curieuse. La philosophie s'est coupée de la vie. Elle s'est coupée de sa source. Mais on ne regarde plus que les faits. C'est pour ça que j'ai dit que cette philosophie analytique telle qu'elle est vécue maintenant, et c'est important parce que ça a une immense conséquence, cette philosophie analytique telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est l'ultime moment du positivisme. Le positivisme, c'est de regarder le résultat sans regarder sa cause. C'est un fait. C'est évident que ça le fait. Tous entendus, les logiciens et la logique mathématique disent rien n'est plus objectif que l'écriture. Jean Coluche, à Fribourg, bien, c'est tout le temps ce qu'il disait. Je ne veux voir que l'écriture. Ça, pour les juristes, c'est très bien. Mais pourquoi pas pour la philosophie? Oui, parce que l'écriture est objective. Ça ne répond pas. Donc elle est objective. Ça dit que la parole est objective. Elle répond. C'est curieux, ça. Mais alors, on peut étudier sur l'écriture. L'écriture, c'est un résultat, c'est un fait. Si vous le coupez de sa source, voilà le positivisme. Vous le regardez comme un fait, comme un donné. Et vous voulez trouver dans ce donné sa propre signification. Alors la signification ne peut se ramener au tout. Elle n'a plus de source. C'est très important de saisir ça. Alors, nous allons voir, pas maintenant, parce que nous allons voir parallèlement à cette étude, la fois prochaine, le point de vue du geste. Quel est le lien entre le geste et la pensée? Quelle différence est-il entre la parole et le geste? Le geste est aussi un signe. Est-ce que le geste est un symbole ou est-ce que c'est un signe? Est-ce que le geste est conventionnel? Le sourire dans le métro de New York à minuit. Hein? Est-ce que c'est conventionnel? C'est énigmatique, tu vois, c'est énigmatique, c'est le sourire du sphinx. Alors, et c'est vrai, il y a des sourires énigmatiques, conventionnels. C'est bien évident que vous sourirez. Hein? Il faut toujours sourire. Même si vous souffrez beaucoup, souriez. Alors, est-ce que c'est conventionnel ou est-ce que c'est naturel? Est-ce que le geste est conventionnel ou est-ce que le geste est naturel? Alors, c'est toute la question de savoir quelle différence y a-t-il entre la parole et le geste. Et essayer de comprendre au moins une philosophie, faire cette philosophie du geste par rapport au corps. La parole, je parle du corps à partir de la voix, à partir du cri, c'est le côté affectif. Mais la parole est avant tout du côté de l'intelligence. Ça c'est sûr. Le geste.